CFM Cahors, le mag.
Et bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Et comme nous sommes vendredi, eh bien lecture avec nos amis libraires de chez Caligramme. Et ça sera Nathalie qui nous donnera ses deux coups de cœur de la semaine en ce qui concerne la rentrée littéraire. Mais sinon, ce week-end, eh bien tout le monde le sait, ce sont les journées européennes du patrimoine. Alors il va y avoir plein de choses quand même. Et dans le Grand Cahors, entre autres aussi, mais à Rocamadour. Et mais que va-t-il se passer à Rocamadour? Eh bien justement, c'est l'objet du premier reportage et de notre premier invité, pardon, aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Ce week-end, les journées du patrimoine, l'occasion pour beaucoup d'entre nous d'aller découvrir des monuments qu'on n'a jamais vus, et peut-être parfois parce qu'on ne peut pas aller les voir. Eh bien, ça va être le cas à Rocamadour, et on va savoir le programme tout de suite avec Laurence Dupeloup. Bonjour Laurence. Vous êtes guide du sanctuaire de Rocamadour. Alors, je pense que vous devez être heureuse de ces journées européennes du patrimoine, vous personnellement.
Bien sûr, c'est une occasion exceptionnelle pour nous et pour tout le monde d'ailleurs. Hein, parce qu'on va pouvoir vous proposer d'une part quelques visites du sanctuaire, pendant lesquelles vous aurez le privilège de pouvoir rentrer dans des chapelles qui sont fermées au public.
D'accord.
Qui ne se visite qu'avec les guides du sanctuaire. Et à côté de ça, on va vous proposer de découvrir le trésor de Rocamadour, c'est-à-dire le musée d'art sacré, qui est ouvert que pour les journées du patrimoine. Donc ça, c'est une occasion à ne pas manquer.
Alors Laurence, on va essayer d'abord, pour donner envie, qu'est-ce qu'il y a à voir dans ces chapelles qui sont fermées habituellement?
Alors, ne serait-ce qu'un joyau du sanctuaire, c'est la chapelle Saint-Michel, hein, une chapelle semi-troglodytique qui est sous le rocher et qui est une pure merveille.
Qui date de quand?
Alors, qui date du XIIe siècle, c'est la chapelle privée des moines, hein, des bénédictins qui ont construit les sanctuaires au XIIe siècle. Mmh. Voilà, et il y a une fresque du XIIIe.
Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier à part d'être sous le rocher? Il y a une certaine décoration, il y a une certaine... Là, il y a cette fresque, elle a été faite aussi il y a longtemps?
Alors, la fresque au XIIIe siècle.
Ah oui, quand même.
Ah oui, c'est vraiment... c'est dans une abside, c'est un cul-de-four, hein, une abside qui sort en saillie à l'extérieur. Et déjà, l'emplacement de cette chapelle, c'est absolument fantastique, quoi. Il y a que trois murs,
mais elle n'a pas
de toit. Elle est complètement dans le rocher.
Hein?
Voilà, et cette abside est absolument... C'est une merveille. En fait, j'ai envie de dire toute l'explication et tout le cheminement du pèlerinage à Rocamadour. C'est comme si on vous emmenait à la porte du ciel.
Elle fait quelle taille, cette fresque?
Nous attend. Comment?
Elle fait quelle taille, cette fresque?
La fresque? Oh, elle est petite. J'ai aucune idée de la taille. C'est pas très grand. Hein. C'est juste une petite abside et ça prend la forme juste derrière l'autel. La chapelle est minuscule aussi.
Qu'est-ce que c'est qu'une abside, Laurence Dupeloup?
Alors, une abside, c'est une... C'est une ouverture, en quelque sorte, dans l'épaisseur du mur, et même qui, dans ce cas, ici, va déborder, qui est en forme de demi-sphère, hein, et qui va sortir du mur. Donc, c'est extraordinaire. Par exemple, dans la basilique, vous avez deux absides, une de chaque côté de l'autel.
Mmh.
Hein, donc, ces ouvertures sont prises dans l'épaisseur du mur. Voilà, et on dit en cul-de-four parce qu'elles ont la forme comme un four à pain.
D'accord.
Hein, c'est une demi-sphère.
Et le reste de l'année, cette chapelle est donc privée et il n'y a que les...
Alors, elle se visite avec avec les guides du sanctuaire.
D'accord.
Uniquement. C'est tellement petit et puis cette fresque, on a envie de la préserver, donc on ne peut pas rester... Il y a d'ailleurs plein de graffitis qui datent du XXe siècle. C'est à pleurer, quoi, de voir cette dégradation. Donc, on a envie de la préserver. Et puis, c'est tout la symbolique du sanctuaire. Vous savez que Rocamadour, c'est l'espérance ferme comme le rocher. Et donc, sur cette fresque, vous avez, c'est le jugement dernier, en fait, avec Saint-Michel qui pèse nos âmes et le Christ nous accueille, voilà, et nous bénit. Donc, c'est vraiment extrêmement symbolique et ça rentre dans le message spirituel du sanctuaire.
Mais alors, expliquez-moi, Laurence Dupeloux, cette fresque, elle est à même le mur ou elle est sur quelle matière ?
Elle est sur le mur.
Sur le mur ? Mais alors,
oui.
Comment on fait pour conserver justement une fresque ? Parce que depuis le temps qu'elle y est, avec l'humidité, puisque c'est directement sur le mur, donc on rappelle que le mur est directement sur la roche, hein, si j'ai bien compris.
Oui, en hiver, quand il pleut beaucoup, vous avez même de l'eau dans cette chapelle.
Ah oui, alors comment...
Elle est très très abîmée. Elle est très abîmée, elle a été restaurée déjà plusieurs fois. Et on aimerait bien pouvoir le refaire.
D'accord.
Parce qu'on ne peut plus tout lire comme autrefois, mais c'est quand même vraiment une merveille, ça.
Et puis, ce fameux musée des trésors de Rocamadour, qu'est-ce qu'on va y trouver dedans ?
Alors, vous allez trouver plusieurs objets, ça va du XIIe siècle au XXe. Voilà, alors on a certaines choses qui viennent du sanctuaire même et d'autres qui ont été, qui appartiennent à des paroisses du diocèse.
Mmh.
Voilà, alors il y a plusieurs choses, c'est ce qu'on appelle le musée d'art sacré. Hein, vous avez par exemple, vous retrouverez le vitrail original qui date du XIIIe siècle, qui est, alors la copie est dans la basilique aujourd'hui, mais c'est un vitrail de forme ronde qui représente la mort de Saint-Martin. Voilà, donc là, on le voit de tout près, c'est extraordinaire, ça.
Quel est vous, personnellement, dans ce musée, quelle est la pièce que vous préférez ?
Ah, là, vous me posez un petit peu une colle.
Ouais, c'est toujours difficile quand on est guide du patrimoine, hein. On aime tout, finalement.
Tellement belles choses. Oui, il y a par exemple, ben, quand vous rentrez tout de suite, il y a une statue de Jonas qui date du XVIIe siècle. Une statue en bois qui était autrefois dans la basilique. Il y en avait probablement plusieurs. Mais alors cette statue, c'est vraiment une merveille. On voit les veines de la jambe et de sa main. Il a un livre dans la main. Il y a des détails, mais c'est vraiment, il y a une attitude extraordinaire de ce Jonas.
Comment on fait pour participer à ces visites ?
Alors, il suffit de se présenter sur les parvis à l'heure indiquée. Hein, les visites sont gratuites et vous aurez un guide. Alors, bien sûr, on vous proposera d'offrir quelque chose pour le sanctuaire. Hein. On a besoin de tous ces dons, parce que le sanctuaire ne vit que de dons. Mais vraiment, ce trésor de Rocamadour, c'est une occasion de le voir. Hein. Vous aurez aussi, vous avez dans ce musée, le gisant de Saint-Amadour.
Alors là, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est, Laurence Dupeloux.
Alors, Saint-Amadour, vous savez, nous disons que c'est le fondateur du sanctuaire. C'est un corps qui a été retrouvé devant la porte de la chapelle de Notre-Dame, complètement intact, en 1166. Donc cet événement, ça a déclenché le pèlerinage.
Mais pourquoi il devait être dans un autre état qu'intact ?
Alors, il est, normalement, les corps pourrissent, hein, après leur mort. Et celui-là, on l'a retrouvé absolument intact. Voilà. Et il est resté intact jusqu'aux guerres de religion, parce qu'il a été brûlé par les protestants.
Ah oui, d'accord.
Alors, il nous reste encore quand même des reliques qui sont... installé dans la basilique, il y a un très très beau reliquaire. Vous en verrez d'autres plus anciens d'ailleurs dans le musée. Mais on a encore quelques ossements, un peu carbonisés d'ailleurs, dans ce reliquaire qui est aujourd'hui dans la basilique. Alors c'est vraiment le fondateur du sanctuaire, c'est lui qui a tout déclenché. Hein, il attire le pèlerin. Vous savez, à l'époque, au XIIe siècle, les reliques sont très très importantes, il aide à prier et il amène le pèlerin au pied de la Vierge en fait.
Eh bien, écoutez, c'est à découvrir pour ces journées européennes du patrimoine à Rocamadour, sachant qu'il y aura aussi d'autres choses à voir, hein, on est d'accord. Hein, il n'y a pas que ces deux, voilà. Et où est-ce qu'on peut avoir le programme des animations?
Alors, je vais vous le donner déjà, il sera affiché, hein, il est sur le site du sanctuaire. Alors, le samedi 18, donc vous avez des visites du sanctuaire à 10h30 et 14h30.
D'accord.
Il suffit de se présenter sur les parvis et vous avez une visite du musée à 16h. Alors le musée, vous savez, il est juste en face du magasin.
Ouais.
Voilà. Et le dimanche, nous avons deux visites du musée. Alors, 14h, visite du musée, 15h, visite du sanctuaire et 16h, visite du musée.
Et puis, pour plus de renseignements, eh bien vous cherchez sur Internet Sanctuaire de Rocamadour et vous tomberez sur le site où il y aura toutes les informations.
Exactement, tout est déjà affiché.
Et c'est un vrai moment de découverte que vous allez pouvoir vous offrir à vous, mais aussi aux enfants, hein, d'ailleurs, entre parenthèses.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Laurence Dupeloux. Je rappelle que vous êtes guide du sanctuaire, donc on vous voit tout au long de l'année, j'imagine, là-bas, pour faire rêver, je ne sais pas, mais en tout cas pour faire des découvertes à nos auditeurs, à tous ceux qui viennent vous voir.
Nous avons toute une équipe de guides, hein, sur le sanctuaire.
Vous êtes combien ?
Voilà, actuellement, nous sommes 7.
D'accord, eh ben, c'est pas mal quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a du monde, hein, qui vient.
Et ouais. Oui, il y a du monde.
Merci, voilà. Merci beaucoup, Laurence Dupeloux.
Merci à vous.
Et puis, on sait aussi que les Journées européennes du patrimoine, ce n'est pas qu'à Rocamadour. À Cahors, ça commence dès aujourd'hui, enfin dans le Grand Cahors plus précisément. D'ailleurs, sachez que sur la place Chapou, samedi et dimanche de 9h à 18h, il y aura un point d'information pour que vous puissiez découvrir les endroits à visiter. La préfecture et la sous-préfecture de Cahors et de Figeac aussi ouvrent leurs portes. Il y a également les musées, les archives départementales et les musées du Lot qui dépendent du département qui vous ouvrent les portes. L'Albinque également, des visites guidées, des conférences. Bref, voilà ce qui vous attend pour ces journées européennes du patrimoine. Et on n'oublie pas d'ailleurs, pendant que vous y êtes aussi, du côté de Montgesti, la journée missionnaire pour les 25 ans de la canonisation de Jean-Gabriel Perboire. Ça fait un petit peu partie aussi du patrimoine.
CFM Cahors, le mag.
Comme chaque semaine, rendez-vous avec vos libraires indépendants du Lot pour les livres qui sortent et on est en pleine rentrée littéraire. Bonjour Nathalie.
Bonjour Yannick.
Nathalie de la librairie Calligramme à Cahors, donc on est vraiment dans la rentrée littéraire.
Oui, et plein boom.
En plein boom, les deux là que tu as choisi, c'est ça?
Oui.
Alors on commence par lequel?
Alors on commence par certainement celui qui m'a le plus ému.
Ouais.
Qui est pour moi le gros coup de cœur de la rentrée littéraire, qui est un roman qui est très dur, qui s'appelle « Pleine terre » de Corinne Royer aux éditions Actes Sud.
Alors là, vu comment tu me l'as présenté, je sens que c'est pas très gai, quoi.
Ça n'est pas très gai, c'est très beau, mais ça n'est pas très gai.
C'est très beau, mais pas très gai. Voilà. Bon, d'accord.
Alors en fait, la question qu'on va se poser, c'est un peu « Est-ce ainsi que les paysans vivent ?» Voilà le sujet de ce magnifique bouquin. Donc ces paysans qui sont assaillis par les contrôles d'une administration obsédée par des règles toujours plus complexes. Et comment finalement appliquer ces dogmes qui, on s'en rend compte très vite, n'ont été mis en place que pour la production de masse. Mmh. Donc comment faire lorsqu'on s'appelle Jacques Bonhomme et que l'on pratique une agriculture pétrie de gestes ancestraux ?
Qu'ils sont plus autorisés. Si
alors, qu'ils sont plus autorisés ou en tout cas, ça n'est pas, disons, le but du jeu. Le but du jeu, c'est produire et se plier aux règles. Donc, Jacques Bonhomme va tout simplement oublier ou prendre un jour un peu de temps pour baguer de veaux qui viennent de naître. Et c'est là que la machine va s'enrayer. Parce que une des règles premières et les plus importantes pour l'administration, mais on peut aussi le comprendre, c'est ce que l'on appelle la traçabilité.
Oui.
Donc c'est là que tout va s'enrayer, c'est là que tout va basculer.
Oui.
Et après une lutte perdue d'avance, un matin, alors qu'il y aura un énième contrôle de la direction départementale de la protection des populations, contrôle en plus pour lesquels le gendarme se sont déplacés, ce matin-là, Jacques Bonhomme va décider de s'enfuir. Et la cavale va commencer, donc du paysan, il va devenir pratiquement l'homme à abattre, en tout cas l'homme à retrouver.
Mais pourquoi
donc,
il fuit ?
C'est la bête traquée, c'est le fugitif.
Mais pourquoi il fuit ?
Alors, pourquoi il fuit ? Eh bien, progressivement, tu vas le comprendre tout au long du roman.
D'accord.
Donc, il va alterner des chapitres qui vont décrire cette traque, ou en tout cas cette fuite, cette cavale, et puis qui vont être donc vraiment centré sur Jacques Bonhomme, et puis d'autres chapitres où l'auteur va donner la parole à sa sœur, à un vieux paysan, un vieux voisin qui est ami de Jacques Bonhomme, où l'auteur va également donner la parole à un des fonctionnaires qui a fait partie de cette bande, on va dire, qui a contrôlé tant et plus Jacques Bonhomme, et elle va aussi donner la parole à la mère d'un ami d'enfance de Jacques Bonhomme. Donc progressivement, on va alterner entre cette cavale et on va comprendre comment un homme, droit dans ses bottes, travailleur, aimant la nature, aimant les bêtes, respectueux, va arriver à ce point de non-retour.
Donc si je comprends bien Nathalie, c'est que le roman commence ainsi, on fuit, on ne sait pas encore pourquoi.
Le roman commence au moment de la cavale.
De la cavale, mais on ne sait pas encore pourquoi, c'est au fur et à mesure du
roman. On va quand même très vite comprendre ce qui s'est passé, mais on va surtout au fur et à mesure comprendre comment on peut plonger aussi loin. C'est un roman qui est bouleversant, c'est un roman qui est magnifiquement écrit. C'est un roman qui est un roman militant. Il y a une véritable prise de position de la part de l'auteur. Elle ne se contente pas de narrer, de raconter. C'est un roman qui interroge aussi énormément sur la place de l'homme dans la nature, sur l'agriculture que l'on veut, l'agriculture qui est défendue par des institutions et celle qui serait peut-être plus raisonnable d'avoir. Donc c'est un roman multiple. C'est un roman dont on sort difficilement, qu'on referme avec difficulté. Ça fait très très longtemps que j'avais pas eu un gros choc comme ça, si peut-être l'an dernier avec Histoire de la nuit de Mauvigné. Mais voilà, donc je pense que c'est un roman nécessaire et indispensable. On est en plus dans un milieu rural. Moi, je suis petite fille de paysan et j'en suis fière. Donc, c'est vraiment un roman que je vais porter à la rentrée. Mais je pense, comme beaucoup de libraires, on en parle déjà énormément.
Surtout en ce moment, avec le retour des farines animales, où on se pose encore des questions.
Donc, très, très franchement, c'est... Et puis, c'est beau. Et Corinne Royer, Pleine Terre, chez Actes Sud.
Eh bien, écoutez, à découvrir, effectivement. T'as quelque chose de plus gai, quand même, à nous proposer?
Alors, j'ai un... roman graphique complètement...
On sait que tu aimes les romans graphiques.
Et oui, voilà. Complètement déjanté.
Déjanté. Ah, ça va
faire
du bien, ça.
Complètement hilarant. Je n'ai jamais... Ça fait longtemps que je n'ai pas piqué des fous rires comme ça.
À ce point-là?
À ce point-là, oui.
Et Dieu sait que c'est difficile de faire rire Nathalie, hein.
Je pense que c'est plutôt l'inverse, ça. Mais bon, en fait, on... Alors, ça s'appelle, déjà, ça s'appelle La conquête du cosmos.
Oui.
De Alexandre Fontaine-Rousseau et de Francis Desarnais. Et alors, la maison d'édition s'appelle
Popo,
donc c'est P-O-W. On est chez les Québécois, on est chez nos amis.
Ils ont déjà le sens de l'humour rien qu'au nom de la maison d'édition.
Bon, alors, ça raconte tout simplement la conquête de l'espace. Ça commence le 4 octobre 1957. La BD finit le 21 juillet 1969 et c'est l'histoire de la folle course que vont se livrer les Russes et les Américains pour gagner la conquête de l'espace. Les Russes étant les premiers finalement à, on va dire, dégainer,
oui,
avec d'abord
vrai.
La petite chienne Leica. Alors, en fait, c'est de l'autodérision, c'est bourré d'humour. On va d'abord suivre les communistes.
Rien que ce nom-là déjà.
Voilà, on va d'abord suivre les communistes. On va suivre donc la bande d'ingénieurs qui essaye de faire en sorte que Leica aille dans l'espace et puis on revienne et encore, c'est pas forcément la problématique, la faire revenir. On va suivre ensuite la même bande d'ingénieurs qui va essayer de mettre un homme à la place d'un chien. Et puis après, on va suivre les Américains qui vont, eux, essayer d'aller sur la Lune. Alors, c'est toujours très compliqué de parler d'un roman graphique
oui.
À la radio.
Oui.
Mais bon, comme je suis une fan, je le fais de temps en temps. Comme tu peux le voir, ce sont des petites pastilles. Donc, en fait, dans ce roman graphique, ce qui va primer, ce sont les dialogues, c'est l'écriture, c'est un humour absolument déjanté. Où, par exemple, dès le départ, les Américains se disant, en tout cas les ingénieurs américains, se disant que c'est tellement compliqué d'aller sur la Lune, alors qu'on leur a donné à peine quelques années, que finalement, peut-être que le plus simple, ça serait de filmer en studio.
Oh là là, là on revient,
oui,
on joue un peu sur le...
Ça serait de filmer en studio l'alunissage, parce que très franchement, le président Kennedy ne leur a pas donné assez de temps. Et en fait, ils se rendent compte qu'il est plus compliqué de filmer un faux alunissage que d'envoyer quelqu'un sur la Lune.
Donc, ils jouent un peu sur les complots.
Sur le complotisme, ils jouent sur le fait que, pourquoi, très franchement, nous sommes allés sur la Lune. Il joue sur le fait que finalement, ce qui est le plus intéressant ensuite pour les Américains, c'est de vendre des t-shirts, de vendre des petits drapeaux, de vendre des tasses qui vont leur permettre de faire de l'argent. Donc c'est très irrévérencieux, très sympathique et finalement, c'est certainement ce qu'il faut lire après avoir lu Pleine Terre. Ça permet d'avoir la pêche à nouveau.
Puis en plus, les pages, hein, les dessins, on a l'impression d'être devant des planches à timbre. Hein, des planches
c'est
de timbre.
Un peu ça, ouais, exactement. C'est des petites pastilles à chaque fois.
Minimum 4 sur 2 et parfois c'est plus.
C'est le dialogue qui va primer. Ce sont des Québécois et ça n'est pas étonnant.
Ça s'appelle la conquête du cosmos.
Chez Popo. D'Alexandre Fontaine-Rousseau et de Francis Desarnais.
À découvrir donc chez vos libraires indépendants, ils sont 7 dans le Lot. Et pour cette rentrée littéraire, ils auront encore d'autres conseils à vous donner si jamais vous hésitez dans votre choix. Merci Nathalie, à bientôt.
Merci à toi.
Nouveauté dans le Lot, organisée par la Maison départementale des familles de l'UDAF 46. C'est une action à destination des enfants ayant vécu ou traversant la rupture de leurs parents. En fait, c'est un groupe de parole pour les enfants. Une animation des séances qui se fait sur la base d'activités ludiques et variées, alternant avec des temps de mise en commun. Une synergie de groupe et la créativité des activités, ça permet justement à l'enfant de s'exprimer en confiance, de partager son vécu avec les autres enfants et d'y puiser des solutions pour se sentir mieux dans sa situation familiale. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps, il y a un premier groupe qui se tiendra en septembre-octobre 2021 et puis il y aura une deuxième session qui sera proposée entre novembre et décembre. Chaque groupe est constitué d'environ 6 enfants entre 6 et 9 ans et ça va se dérouler à Cahors. Et puis on espère qu'un peu plus tard, il y aura la tranche 9-12 ans qui pourra se situer également dans des communes du Lot. Alors comment y participer? Il y aura d'abord un entretien avec la personne référente qui est Francine Masconin qu'on a souvent entendu ici dans le magazine. Et puis, vous contactez la Maison départementale des familles parce que ensemble, vous allez voir si l'action est indiquée pour votre enfant. Donc, ce sont ces groupes de parole pour enfants de parents séparés. Pour plus d'informations, d'ailleurs, Maison départementale des familles du Lot, ils ont même leur propre page Facebook pour savoir et pour avoir les numéros de téléphone et savoir comment ça se passe. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. C'est la fin de ce magazine. À réécouter tout à l'heure à 17h et 21h30 pour la rediff. Et puis sinon, on reste ensemble pour un après-midi de rock et des découvertes et dans un instant, le journal.